Faut-il prendre des probiotiques? Eh bien, c'est la question aujourd'hui posée à la Une de la Science, Axel.
Oui Mathieu, mais d'abord une petite page de publicité.
Quand on est ballonné, on se sent comme une petite chenille rondelette. Heureusement, il y a Provadil Probiadestis, le probiotique spécialement contre les flatulences. L'efficacité de Provadil Probiadestis est cliniquement prouvée.
Même la chenille, c'est ça.
Oui Mathieu, booster ses bonnes bactéries, rééquilibrer sa flore intestinale, ces phrases on les entend de plus en plus et l'idée des probiotiques semble excellente sur le papier mais reste à savoir si ça marche, quand est-ce que ça marche et pour qui. Deux études parues la semaine dernière montrent qu'on est peut-être allé un petit peu vite en besogne au sujet des probiotiques et pour en parler nous recevons le microbiologiste Marc-André Sellos, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l'université de Gdansk, c'est en Pologne. Alors ces deux travaux parus la semaine dernière dans la revue Cell sont signés de la même équipe israélienne et le moins qu'on puisse dire c'est que ces chercheurs ne démontrent pas l'efficacité des probiotiques.
Oui, alors effectivement ils ont administré des probiotiques soit à des gens sains, comme vous et moi, soit à des gens qui sortaient d'une antibiothérapie, donc d'une application antibiotique qui avait réduit considérablement la diversité de leur flore, et ils ont regardé deux choses. Est-ce qu'on retrouvait les probiotiques dans les selles? Et ça, on les retrouve toujours, ils survivent au passage. Est-ce qu'on les retrouve dans le tube digestif? Et là, la réponse est pas toujours. L'idée de ces probiotiques, c'est d'appliquer des souches de bactéries que l'on pense favorables pour aider notre microbiote, comme on dit, l'ensemble de nos microbes, à fonctionner mieux. Et là, il y avait un mélange de 11 souches, généralement utilisées comme des lactobacilles, par exemple.
Mais alors, les probiotiques, on en trouve en parapharmacie, on en parle beaucoup, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment testé leur efficacité, leur maintien dans le tube digestif?
Et non, ici, la pratique a précédé un petit peu l'analyse des conséquences. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais c'est de la parapharmacie, dirais-je. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché derrière. Il y a que le bactéole et l'ultra-levure qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché. Les autres ne sont pas, à proprement parler, des médicaments. Et c'est vrai que, même s'il y a des choses sérieuses, souvent, on n'a pas d'analyse de est-ce que ça reste et qu'est-ce que ça fait. Et d'ailleurs, dans l'étude, là, ils font un effort pour regarder qu'est-ce que ça fait. Ils regardent comment s'expriment les gènes de l'organisme après l'application des probiotiques. Et le résultat est assez étonnant. C'est que quand on administre ça à des gens qui n'ont pas de symptômes, ça passe dans les selles, mais ça ne s'installe pas.
Donc ça traverse.
Alors, il y a quelques personnes chez qui ça s'installe, d'autres pas. Et en fait, ça dépend de quel microbe ils ont dans leur organisme. Ça prédit le résultat de savoir si ces probiotiques vont s'installer ou non. Quand je dis que ça s'installe, c'est qu'ils font des prélèvements directement dans l'intestin. Mmh. Pas simplement ce qui sort. Et par contre, après une antibiothérapie, alors quand on prend des antibiotiques, ça détruit le microbiote intestinal. Et là, on voit que ça reste. Mais ça reste tellement bien que le microbiote habituel, normal, et l'expression habituelle des gènes du tube digestif ne revient pas. Jusqu'à 5 mois de blocage pour le retour à la normale.
Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai envie de dire, comment il faut imaginer l'arrivée de nouvelles bactéries en nous via une gélule?
Alors, soit il y a déjà du monde, c'est déjà peuplé, et là c'est la guerre. S'installer ou dans un endroit où il y a déjà des centaines, si ce n'est plusieurs centaines d'espèces qui sont installées et qui mangent tout ce qui est disponible, qui occupent tous les espaces, c'est pas facile, et ce que nous racontent ces travaux, c'est qu'en général, ça ne marche pas.
Donc c'est la guerre des bactéries, c'est ça?
De toute façon, c'est partout pareil, il faut se faire une place au soleil. Alors là, c'est pas au soleil, c'est une place dans le tube digestif.
Les places sont chères.
Le fait qu'on soit tous différents fait qu'il faudrait tester tous les types de personnes avant de savoir quel microbiote ou quel probiotique marcherait pour tout le monde.
Alors effectivement, nous sommes tous différents par les microbes que nous contenons, et des fois, certains contenus du tube digestif permettent quand même l'installation des probiotiques. Il y a un certain nombre de patients chez qui ça s'installe, d'autres pas, et ils diffèrent par les microbes résidents. Et ça veut bien dire que c'est les microbes qui sont là qui vont autoriser ou non les probiotiques à s'installer. Et ça veut aussi dire, comme vous dites, que nous différons par rapport aux probiotiques. Mais j'allais dire, c'est vrai de tous les médicaments. Un médicament donné n'a pas non plus le même effet sur n'importe quel patient.
Mais quelles sont les questions qu'il faut se poser maintenant? Parce qu'on parle beaucoup de la révolution de la médecine basée sur les probiotiques ou sur la modification du microbiote. Avec ce genre d'études, on voit que c'est très compliqué.
Ah oui, c'est compliqué. Vous savez, il n'y a pas de doute, il y a là un outil prodigieux pour l'avenir. On sait bien aujourd'hui que le microbiote, hein, les micro-organismes qui nous peuplent, nous défendent, même sur la peau, ou dans le nez, ou dans le vagin. L'homme est défendu par ces microbes, ces microbes l'aident à digérer, mais ils ont aussi des rôles en émettant des substances qui vont modifier le fonctionnement du système immunitaire, modifier le développement de l'enfant, modifier également l'humeur. Bon, ça c'est une chose établie. Maintenant, manipuler ça, ça soulève de grands espoirs, mais c'est comme tout, il va falloir du temps pour mettre au point. Souvent, je raconte l'histoire de la découverte de la radioactivité. Tout le monde est tellement enthousiasmé par cette énergie qu'on a commencé à faire des poudres pour les femmes ou des rouges à lèvres radioactifs.
Quelle bonne idée, oui.
Qu'on a vendu dans les années 20 parce que c'était plein d'énergie, n'est-ce pas? Bon, à l'usage, il s'est avéré que le merchandising, pour prendre un terme moderne, avait précédé la réflexion et la sérénité de la recherche. C'est une voie absolument prometteuse, mais elle prendra du temps avant d'être éprouvée techniquement, technologiquement.
Alors Marc-André Sellos, parmi les autres voies, ces chercheurs israéliens, ils en testent une, c'est l'autotransplantation. Je vous laisserai expliquer ce que c'est, mais en tout cas, ça marche.
Alors justement, après antibiothérapie, il y a un petit lot des patients qu'ils étudient à qui ils vont donner tout simplement des bactéries qu'ils avaient préalablement isolées de leur intestin. Et donc, ils avaient congelé, puis ils les ressortent et ils les leur redonnent après l'antibiothérapie. Et eux reviennent très vite à l'état de fonctionnement normal, que ce soit en termes de quelles bactéries sont présentes ou de quels gènes s'expriment dans les cellules du tube digestif. Et ça, c'est une voie d'avenir, je pense. Il y a actuellement une start-up qui développe ça par rapport aux chimiothérapies, qui détruisent aussi le microbiote. Et cette start-up vous propose de mettre de côté votre microbiote avant le traitement pour le récupérer juste après le traitement et revenir au plus vite à un fonctionnement normal du point de vue de ce microbiote. Ça, c'est prometteur, oui.
Marc-André, on vend toujours ces yaourts avec des probiotiques ou pas là? Ça se vend toujours dans le commerce?
Ouais.
Ça sert à quelque chose?
Alors justement, ça, c'est pas vraiment cet article, mais l'idée, c'est qu'il est probable que selon les gens, ça s'installe ou non. Et la vraie question, c'est quand ça s'installe, est-ce que la place que ça prend est mieux prise par ce qui s'installe que par ce qui pourrait s'installer ou ce qui était là avant?
Donc on ne sait pas.
Eh bien, ça, c'est la science, de savoir dire à un moment, on ne sait pas. Visiblement, ce n'est pas toute l'activité commerciale.
Merci beaucoup, en tout cas, Marc-André Sellos, vous qui êtes également l'auteur de ce livre « Jamais seul, ces microbes qui constituent les plantes, les animaux et les civilisations » et qui est sorti aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu commenter cette publication, ces deux publications. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, combattre le gel par le gel. Lorsqu'il s'agit de dégivrer sa voiture avant de partir, le gel est simplement agaçant. Mais lorsqu'il s'agit de dégivrer la carlingue entière d'un avion avant chaque décollage, la lutte contre le gel consomme chaque année d'énormes quantités d'antigel chimique. Une équipe de chercheurs vient de mettre au point un système très ingénieux pour combattre justement le gel en griffant une surface d'aluminium avec un motif de rayure très particulier. Ils empêchent 90% du gel de se former à sa surface. Une étude qui pourrait révolutionner l'aviation et faire du bien à l'environnement. La plus vieille bière du monde pourrait avoir 13 000 ans. Des indices découverts dans la grotte de Rakefet en Israël, où vivait le peuple natoufien, laissent penser qu'il était peut-être le premier brasseur de l'histoire. Des mortiers contenant des traces d'amidon, des résidus de fermentation, indiquent que des graines ont été broyées puis traitées lors d'un procédé rappelant la brasserie. Si cette découverte est confirmée, elle serait la plus vieille trace d'alcool artificiel à ce jour, mais elle serait aussi antérieure à l'agriculture. Et puis pour terminer, une vidéo étonnante qui nous montre comment les plantes réagissent aux agressions extérieures. Si vous pincez une feuille d'un bégonia ou posez dessus une goutte d'acide, toute la plante va réagir et mettre en place son système de défense. Pour la première fois, des chercheurs ont filmé, grâce à un procédé de fluorescence, la propagation dans la plante du signal électrique émis au moment de l'agression. Une vidéo où l'on voit un plant de chou s'illuminer entièrement en moins de 2 minutes après avoir été attaqué par une chenille. Et cette vidéo est disponible sur la page Facebook de l'émission.